Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, vous vous rappelez quel est le but des sermons que je vous fais, c'est de vous montrer l'Église dans sa pureté, de vous montrer que l'Église, c'est principalement, comme le dit le Credo, le Saint-Esprit. Le Credo, Credo in Spiritum Sanctum, est Ecclesiam Sanctam Catholicam. Je crois dans le Saint-Esprit et juste aussitôt, je crois dans le Saint-Esprit, dans la Sainte Église catholique. Et le catéchisme du Concile de Trente fait bien remarquer le lien entre les deux. Ce lien, il faut le rendre visible pour que vous vous en rendiez compte. Bien sûr, il y a l'enseignement de l'Église, mais nous sommes des hommes et nous avons bien besoin de voir un peu pour arriver à comprendre l'intérieur des choses. Nous sommes à une époque où l'Église est dirigée directement par le Saint-Esprit et nous voyons la réponse des hommes saints. Et nous avons, une fois de plus, dans les épisodes de la vie d'Abraham que je vais vous commenter aujourd'hui, un excellent exemple pour notre époque. Voici le résumé, parce que je résume plusieurs chapitres de la Genèse. Abraham quitte l'Égypte avec Sarah, après l'épisode que nous avons commenté dans les deux derniers sermons. Arrivé sur la terre promise, il y a une dispute entre les bergers de Lot, son neveu, et les bergers d'Abraham, ce qui fait que Abraham, avec beaucoup de vertu, va encourager Lot à faire ce qu'il faut pour entretenir la bonne entente. Le pauvre Lot est fait prisonnier et Abraham va le délivrer de façon tout à fait merveilleuse, vous verrez. Et c'est à cette occasion qu'il reçoit le témoignage de Melchisédek, qui est un personnage très important dans l'Écriture sainte, puisque saint Paul en parle deux fois, puisque les psaumes en parlent également. Et après toutes ces aventures, pourrait-on dire, Dieu apparaît une nouvelle fois à Abraham pour le rassurer sur sa descendance. Premièrement, Abraham quitte l'Égypte. Les pères de l'Église sont nombreux à faire remarquer qu'il quitte l'Égypte parce qu'il ne s'y est pas attaché. Il dit l'homme saint qui se rend au milieu des infidèles par devoir, s'il est vigilant, ne s'y souille pas. Pour être souillé au milieu des infidèles, il faut soit aimer leur fréquentation, soit au moins ne pas être vigilant. Puisqu'il est allé en Égypte par fidélité à Dieu, pour répondre à la Providence, Dieu va le bénir, et dans l'Ancien Testament, Dieu manifeste la plupart du temps ses bénédictions par des richesses matérielles, non pas qu'Abraham en avait besoin, mais puisque Abraham est un modèle, il faut que ceux qui le voient, d'abord ses serviteurs, sa famille, et puis ceux qui l'entourent, constatent les bénédictions de Dieu. Cela va être une méthode de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Et je vous le fais remarquer, parce que justement, depuis la prédication de l'Évangile et depuis Jésus-Christ, Dieu ne suit plus la même méthode. Et comme nous sommes un petit peu désemparés par les épreuves, cela prouve que justement, nous avons des progrès à faire, que nous sommes un peu encore comme ces païens de l'époque qui ont besoin de voir les bénédictions de Dieu, les bénédictions matérielles, pour se dire que Dieu est intervenu. Abraham, lui, n'en a pas besoin. Et il va être fidèle, enfin on va voir ça d'ailleurs, dans les épisodes qui suivent. Il est très riche, en troupeaux, en or, en argent. Tout cela, évidemment, a une signification mystique, comme l'or des rois mages. L'or a des qualités de pureté que l'argent n'a pas, des qualités de noblesse également, ça désigne la royauté. Ça désigne également ce qui est riche et ce qui est le plus riche dans la vie d'un chrétien, c'est la contemplation de Dieu. Ils arrivent en Terre Sainte et les très nombreux troupeaux de Abraham, avec les très nombreux troupeaux de Lot, ont du mal à être dans les mêmes territoires. Ce n'est pas qu'ils ont du mal, parce qu'en réalité, si les pasteurs de ces deux troupeaux s'entendaient bien, il n'y aurait aucune difficulté. Mais on est là dans des attitudes très humaines, et il est intéressant de voir comment Lot et Abraham vont réagir et quelles vont être les conséquences. Abraham lui dit, écoute, tu es mon neveu, nous ne pouvons pas, dans la même famille, nous disputer. Il lui dit exactement, tu es mon frère. Et j'en profite de l'occasion pour vous montrer que le mot frère dans l'Ancien Testament n'a pas la signification très restrictive qu'il a aujourd'hui en français. Ça sera important quand nous verrons que l'Évangile dit que Jésus avait des frères, c'est-à-dire qu'il avait des cousins ou des neveux. Tu es mon frère, nous ne pouvons pas nous disputer. Alors regarde autour de toi, si tu veux partir à droite, moi je partirai à gauche, si tu veux partir à gauche, moi je partirai à droite. Lot regarde autour de lui, il voit la plaine parfaitement riche, qui est celle du Jourdain, qui maintenant a disparu, puisqu'elle a été recouverte par la mer morte après le châtiment de Sodome et Gomorre, mais à l'époque c'était une terre très riche. Et il dit, cela me plaît, je choisis cette terre. Très bien, dit Abraham, comme tu veux, moi je pars de l'autre côté. Les pères de l'Église font remarquer que ce n'est pas comme cela qu'on choisit. On ne choisit pas ce qui plaît, on choisit ce qu'on doit. Je viens de vous faire remarquer que si Dieu donne des grandes richesses, c'est le signe de bénédiction, et il est évident que si c'est Dieu qui les donne, on doit les utiliser pour lui, pour son service. Et il y a deux manières d'utiliser les richesses pour le service de Dieu. La première, c'est de les utiliser, comme le font ceux qui, par exemple, avec leurs richesses, au Moyen-Âge, construisirent des hôtels-Dieu, et qui aujourd'hui consacrent leurs possessions pour l'extension du royaume de Dieu. Et la deuxième manière, c'est de les mépriser. Abraham est très riche et cependant il méprise les richesses. Peu lui importe que les terres qu'il choisit soient pauvres ou riches, tandis que cela n'importe pas à Lot, au contraire. Le résultat, une promesse pour Abraham, une nouvelle promesse, c'est la troisième, c'est toujours la même mais elle est renouvelée, la promesse de la descendance, et il est évident, tous les pères de l'Église le disent, que cette grande descendance d'Abraham, c'est évidemment le peuple chrétien. Lorsque Dieu, dans les psaumes, promet de grandes possessions parmi les nations au Christ, dans le psaume 2 que nous avons eu pour Noël, « Je te donnerai les nations pour héritage, et ta possession s'étendra jusqu'aux limites de la terre. » C'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils, et tous les pères de l'Église sont unanimes sur cette interprétation. C'est la même chose pour Abraham. Lot, lui, ne fait pas attention, il se trouve au milieu de Sodome et Gomorre, l'Écriture sainte le fait remarquer que c'est quand même pas un lieu de vie pour un chrétien. S'en est-il rendu compte? On ne sait pas. Toujours est-il que lors d'une guerre entre des rois de la région, Lot va être fait prisonnier, parce que justement, il ne jouit pas de la protection de Dieu. Vous penserez peut-être que c'est un petit peu trop automatique, mais je vous l'ai dit. Dans l'Ancien Testament, c'est un peu automatique parce que le bon Dieu veut faire comprendre par là que la protection par la grâce, les richesses intérieures, la protection contre le péché, dans le Nouveau Testament, est automatique. Quiconque se comporte comme Lot va nécessairement subir un détriment pour son âme, et quiconque se comporte comme Abraham va nécessairement recevoir des grandes bénédictions spirituelles. C'est une guerre gigantesque dans laquelle Lot est prise, gigantesque au sens propre, puisque cinq rois, non quatre, quatre rois vont défaire un peuple de géants et faire prisonniers cinq rois puissants. Jusqu'alors, cette affaire-là n'intéresse pas Abraham. Que les gens de la terre se disputent entre eux, ce n'est pas nouveau. Mais on vient annoncer à Abraham que Lot a été fait prisonnier. Alors là, ce n'est plus du tout la même affaire. Et Abraham va réunir, l'Écriture sainte nous dit très exactement, 318 serviteurs pour attaquer ces rois si puissants qui ont ravagé la terre. Il fait une alliance avec quelques potentats locaux. Enfin, on est loin d'avoir une grosse et grande armée. Cela me fait penser à Monseigneur Verjus chez les Papous. On annonce à Monseigneur Verjus, évêque en Papouasie, qu'une petite peuplade, une tribu de Papous, n'a pas accepté la domination coloniale des Australiens, qu'il y a peut-être même eu un meurtre, et que la police australienne part faire un exemple en punissant durement les Papous en question. Monseigneur Verjus se rend compte que si c'est cela, ça va être l'escalade de la violence, et que les Blancs ne peuvent pas faire la leçon aux Papous en les tuant alors qu'ils leur reprochent d'avoir commis un meurtre. C'est complètement contradictoire. Surtout, la mission va être mise par terre pour très longtemps. Alors Monseigneur Verjus n'hésite pas, il est tout seul, il se fait conduire dans une barque pour remonter le fleuve et va se présenter aux Australiens qui colonisent la Papouasie avec sa seule force morale, sa seule autorité d'évêque. Il n'est pas certain que cela réussisse, mais il est certain qu'il doit le faire. Faites bien attention, mes bien chers frères. On ne fait pas toujours les choses parce qu'elles doivent réussir. Notre Seigneur est mort sur la croix, aux yeux du monde, c'est un échec. Abraham, là, parce qu'on est dans l'Ancien Testament, cela va être une réussite. Intérieure, bien sûr, et extérieure. Monseigneur Verjus, donc, fait hisser sur le village de la tribu Papou le drapeau du Sacré-Cœur. Lorsque les Australiens arrivent, ils se présentent, et c'est comme tant de fois où les évêques ont défendu la chrétienté, ils calment les Australiens et ils ramènent les Papous à la raison. Abraham donc prend 318 hommes, quelques alliés de potentats locaux, et, comme nous l'avons déjà vu lors de l'enlèvement de Sarah, ce n'est pas parce qu'on a la protection divine qu'il faut tenter Dieu et faire n'importe quoi, n'importe comment. Puisqu'ils sont peu nombreux, ils vont attaquer de nuit dans de multiples points différents et l'ennemi va croire avoir affaire à une puissante armée. C'est la déroute. Abraham délivre Lot et les pères de l'Église nous font remarquer le désintéressement d'Abraham, qui aurait pu dire à Lot, écoute, tu as choisi, tu as voulu te séparer de moi, tu aurais pu assumer les conséquences. Non, c'est l'inverse. Abraham oublie tout ressentiment qui aurait pu être possible, et il délivre Lot. C'est alors que Melchisédek, qui est roi de Salem, c'est-à-dire très probablement de Jérusalem, la cité de la paix, se présente devant Abraham, lui rend hommage, offre un sacrifice tout à fait inhabituel pour l'époque, puisque c'est un sacrifice de pain et de vin, et non pas un sacrifice d'animaux. Et bien que Melchisédek ait rendu hommage à Abraham, c'est Abraham qui lui paye la dîme. C'est l'annonce, dès maintenant, d'un sacrifice plus élevé, le sacrifice du Christ. C'est l'annonce de l'Eucharistie, et l'Écriture sainte nous dit très clairement, saint Paul dans l'Épître aux Hébreux nous dit très clairement que Melchisédek est la figure du Christ, l'annonce du Christ. Melchisédek qui est prêtre et roi, car il est évident que, quelle que soit l'époque de l'Église, même au temps des patriarches où il n'y avait pas de hiérarchie, pas de pape, je vous l'ai déjà dit, le Saint-Esprit avait inspiré aux hommes le culte, bien entendu, mais il avait inspiré à des hommes éminents, comme Melchisédek, de prendre la responsabilité de conduire le peuple dans l'honneur de Dieu, dans le service de Dieu. Non pas de le conduire au sens de diriger, mais de réunir le peuple autour de la louange due à Dieu. Il n'y a pas que Melchisédek qui lui rende ce beau témoignage à sa vertu et à son courage et surtout à sa foi, parce qu'il faut de la foi pour attaquer des milliers d'hommes avec 318 soldats, qui ne sont même pas des soldats d'ailleurs, qui sont des pasteurs. Abraham emporte un riche butin, très riche butin, et c'est là que le roi de Sodome lui dit « D'amici animas, cetera tolle », qui est la devise de Don Bosco, « Donne-moi les âmes et garde tout le reste ». Autrement dit, « Donne-moi les hommes, tu me rends les prisonniers, je te laisse tout le reste du butin ». Mais Abraham voit bien qu'il y a là un piège, d'abord qu'il y a beaucoup d'orgueil chez cet homme, et puis que les mauvais comptes risquent de faire des mauvais amis, et que les descendants du roi de Sodome risquent de reprocher aux descendants d'Abraham plus tard de s'être enrichis sur le compte de leur aïeul. Alors Abraham fait une nouvelle fois preuve de désintéressement. Il dit, écoute, pour mes alliés, tu leur donnes la barre de butin parce que je ne peux pas décider à leur place, mais pour moi, il n'est pas question que je garde quoi que ce soit. Tu me rembourses mes frais. Ah oui, ce n'est pas parce qu'on est un saint patriarche et un modèle pour tous les chrétiens à venir qu'on doit négliger ces questions concrètes. Parce que, comme je vous l'ai dit, les bons comptes font les bons amis. Monseigneur Lefebvre était comme cela d'ailleurs. Il était très attentif à ces questions d'échange d'argent. Il demandait que nous soyons désintéressés, mais en même temps, il voulait que nous fussions justes et que les fidèles fussent justes envers les prêtres, sur les questions matérielles. Abraham abandonne donc au roi de Sodome toutes les richesses qu'il avait conquises par le butin. Une quatrième fois, Dieu apparaît à Abraham pour garantir une nouvelle fois l'alliance qu'il fait avec lui, et cette fois-ci, nous n'avons pas une promesse, mais une véritable alliance. Dieu apparaît à Abraham, il lui donne un sommeil extatique. Des pères de l'Église commentent longuement cet épisode, mais il ne vous serait pas possible de suivre ça oralement. Il faut avoir un texte écrit et le lire. Et puis, c'est un peu subtil. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a ici quelque chose de sacré et de solennel. Dieu demande à Abraham de lui offrir des animaux en sacrifice, et il va respecter la manière de conclure les contrats de l'époque. Chacun des animaux est coupé en deux, mis face à face sur deux rangées, et les co-contractants passent entre les deux rangées en se promettant mutuellement le sort de ces animaux si l'un d'eux ose être infidèle au contrat. Abraham obéit à Dieu, met les animaux sur deux rangées, et à la fin de la nuit, une nuée passe au milieu des animaux, c'est Dieu qui garantit le contrat. Abraham en profite pour lui dire « Seigneur, cela fait quatre fois que vous me promettez une descendance, et pourtant je n'ai toujours pas de fils. Est-ce le signe que vous voulez que j'adopte le fils de mon intendant ?» Et Dieu lui dit « Non. Ce que j'ai promis est promis. Tu auras un fils de Sarah. » Abraham pourtant était vieux, Sarah vieille, avait largement passé l'âge de la procréation. Et on voit par là que Dieu éprouve longtemps ses fidèles serviteurs par des épreuves de foi. Abraham aurait très bien pu se dire, mais ne suis-je pas dans l'illusion? Est-ce bien Dieu qui m'a parlé? Puisque voici une promesse qui m'est faite et qui n'est toujours pas réalisée, or Dieu est toujours fidèle dans ses promesses. Dieu laisse donc Abraham longtemps dans l'épreuve. Et Abraham subit cette épreuve, mais à aucun moment il ne se défie de Dieu. Et quand l'épreuve a suffisamment duré, Dieu intervient, mais vous remarquez qu'il n'intervient pas en donnant un fils à Abraham, mais en renouvelant la promesse, en encourageant de nouveau Abraham. C'est-à-dire que l'épreuve n'est toujours pas achevée. Certes, Dieu est aux côtés d'Abraham, il s'est montré, cela c'est encourageant et c'est le signe de la grâce et de Dieu qui nous accompagne dans toutes les épreuves, n'empêche que l'épreuve n'est toujours pas achevée. Et nous verrons la prochaine fois comment elle va s'achever de façon extraordinaire. Je voudrais faire une seule application pratique pour notre époque. Monseigneur Lefebvre fut comme Abraham. Il avait affaire à la troupe puissante de l'Église moderne. Et il s'est levé avec 318 hommes, même pas. Et parce qu'il le fallait, Dieu lui a donné la victoire, victoire spirituelle. La preuve, c'est que vous m'écoutez. C'est le drame de l'Église aujourd'hui. Staline disait, le Vatican, combien de divisions de chars? Autrement dit, le Vatican n'a aucune défense, je n'en ferai qu'une bouchée quand je voudrais. Et voilà que les papes ont été impressionnés par la puissance des nations, par la puissance des communistes, par la puissance de tous les peuples. Et un pape qui aurait la foi devrait répondre à Staline, « Justement, tu as beaucoup de chars, mais tu n'as que des chars, tandis que moi j'ai Dieu. » Et un pape digne de ce nom, au lieu de faire le Concile Vatican II pour se réconcilier avec le monde moderne et éviter les problèmes, aurait prêché comme Saint Bernard et le pape Urbain II une croisade. Une croisade sans armes extérieures, mais avec les armes de la foi. C'est ce que la Sainte Vierge a demandé à Fatima. Consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Et cette simple consécration suffira à mettre par terre la puissance communiste et à transformer cette grande nation religieuse, parce que la Russie est religieuse, mais orthodoxe, et dont la religion est dévoyée, à la transformer en un allié puissant de l'Église catholique par la conversion de la Russie. Voilà, mes bien chers frères, j'ai dépassé mon temps de parole. J'ai voulu tout vous dire parce que j'avais peur que vous vous ennuyiez avec mes petits récits. Je me suis dit, si j'en mets beaucoup, cela va les intéresser. Le résultat, c'est que vous allez peut-être être un petit peu perdu dans tout ce que je vous ai raconté. Eh bien, vous réécouterez le sermon si vous en avez le temps. En tout cas, cet épisode de la vie d'Abraham est vraiment plus qu'un modèle pour vous tous, mes bien chers frères, au milieu du monde présent. Et doit nous donner courage au milieu des guerres impressionnantes que le monde nous fait. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous, convertissez la Russie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.